l'interview du jour.
Notre invitée, c'est Dalila Chenaff-Nissé. Elle est au micro avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Dalila, vous êtes maître de conférences économiste à Bordeaux School of Economics. Bordeaux School of Economics, on n'en parle pas souvent, mais est-ce que vous pourriez nous présenter votre activité en détail, s'il vous plaît ?
Oui, tout à fait. Donc, je suis donc bien Dalila Chenaff-Nissé. Je suis économiste à Bordeaux Sciences Économiques depuis pas mal d'années maintenant. Je suis arrivée à Bordeaux à peu près en 2012. Donc, c'est une entité qui réunit un grand nombre de chercheurs en économie dans quatre domaines, notamment le domaine où je suis, qui est celui de l'économie internationale et de la finance. Mais il y a également des domaines comme celui de l'économie du développement, de l'économie industrielle, de l'économie spatiale. Donc il y a de nombreuses thématiques qui sont abordées dans ce laboratoire. Et moi, je travaille plus particulièrement sur des thématiques qui ont trait aux pays en développement.
Donc c'est lié à l'Université de Bordeaux, hein, complètement.
Tout à fait, tout à fait.
Très bien. Et donc aujourd'hui, vous venez nous parler du projet Undeterred pour Unintentional Discrimination Detected and Racism Revealed and Deactivated. Undeterred, en anglais, ça veut aussi dire pas découragé. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet ?
Alors oui, effectivement, c'est le projet Undeterred. C'est effectivement, le terme veut dire sans se décourager. Donc c'est un projet européen, ce qu'on appelle un projet Horizon Europe. Ce sont des financements que propose l'Union européenne pour s'attaquer à des problèmes de société, essentiellement. Nous avons répondu à un appel à projet autour de la thématique de la discrimination et surtout du vivre ensemble. Donc on a été lauréat depuis l'année dernière. Le projet a démarré en mars 2023. Alors pour préciser un petit peu le thème de ce projet, qui est vraiment un projet qui a trait au vivre ensemble, c'est un projet qui porte sur les discriminations vécues par les jeunes dans les domaines du logement, de la santé, de l'emploi et de l'éducation. Alors on se pose des problèmes sur finalement l'ensemble des discriminations que vivent ces jeunes, on va dire entre 18 et 35 ans, dans différents pays en Europe, puisque l'étude porte sur la ville de Bordeaux, la ville de Barcelone, Amsterdam, Bucarest et Lausanne. Et on travaille aussi avec la ville de Québec, qui est très avancée sur ces thématiques-là. Alors, on a une focale un petit peu particulière, c'est qu'on se pose des questions sur les difficultés d'accès et d'opportunités dans ces quatre domaines, et plus spécialement par ces difficultés qui sont vécues par des jeunes qui sont issus de l'immigration. Alors première, deuxième, troisième, quatrième, voire cinquième génération sur le sol européen, puisqu'on constate aujourd'hui, toutes les statistiques le montrent, que les jeunes issus de l'immigration continuent à avoir encore des difficultés à accéder aux études supérieures, accéder à certains emplois, accéder à des logements, etc. etc. Ces difficultés, il faut s'attaquer à les expliquer. Pourquoi ces jeunes qui vivent sur le sol français depuis tant d'années continuent à vivre autant de difficultés à s'insérer dans la vie professionnelle. Alors, juste une petite précision, c'est un projet qui, au départ, ne se préoccupait que des jeunes dans les universités. On se posait des questions sur les difficultés d'accès à certaines filières, sur les difficultés à suivre les études quand on a un emploi à côté, etc. Et c'est l'Union européenne elle-même qui a souhaité qu'on élargisse aux autres domaines. De l'emploi, de la santé et du logement.
D'accord. Et c'était pourquoi l'Union européenne a voulu élargir ça ? Parce que les étudiants, en fait, ça réduisait trop à une certaine tranche de population ?
Alors, effectivement, ça réduisait trop le périmètre de la recherche. Donc ça, c'était une première raison. Et pour finalement l'Union européenne, les difficultés, elles peuvent exister dans le monde universitaire, évidemment. Mais pour eux, il leur semblait que ce n'était pas forcément le lieu où on allait révéler le maximum de choses. Alors, c'est généralement un campus, c'est très interculturel, il y a une grande diversité. Et donc, bon, il y a une vision un peu idyllique de l'université. Et c'est pour ça qu'on nous a demandé d'élargir à quatre domaines et qu'on aille jusque dans des quartiers prioritaires des villes ou des quartiers en difficulté, où les personnes sont en difficulté.
Donc vous l'avez dit, Dalila, il y a beaucoup de discriminations qui donnent des difficultés d'accès au travail, aux études, etc. Est-ce qu'il y a d'autres formes de discrimination qui ont été révélées par cette étude ?
Alors, les discriminations qu'on essaye de qualifier, elles sont de trois ordres. Alors c'est un peu technique, mais il y a naturellement les discriminations directes qui sont totalement punies par la loi. Alors bon, ça peut être des injures racistes et autres, mais il y a ces discriminations que l'on qualifie de directes et qui sont prohibées naturellement, interdites par la loi. Il y a ensuite des discriminations qui sont indirectes. Ce sont des discriminations qui sont dues au fait qu'il va y avoir une norme ou une pratique qui n'a absolument pas au départ été pensée comme étant discriminatoire, mais qui finalement, par ricochet, sera discriminatoire. Je donne un exemple. Pendant longtemps, on a estimé que pour être pompier, il fallait mesurer une certaine taille, plus d'1,70 m. Sauf que, du coup, par la force des choses, les femmes mesurent en général moins d'1,70 m. Donc l'objectif, ce n'était pas de dire on ne veut pas des femmes dans le corps des pompiers, mais il y avait une contrainte physique qui fait que, de fait, les femmes étaient exclues, ne pouvaient pas être recrutées en tant que pompiers. Donc ça, c'est typiquement une règle qu'on n'a pas imaginée forcément en se disant qu'on allait être discriminatoire, mais qui finit par être discriminatoire. Ça, c'est la discrimination indirect. Alors, il y a plein d'exemples dans la vie où, au final, on se rend compte qu'on n'a pas pensé que la pratique allait être discriminatoire, mais où, au final, elle le devient. Alors, ce qui est problématique, c'est quand c'est toujours les mêmes populations qui finissent par en souffrir. Alors, avec souvent les femmes qui peuvent être discriminées par rapport à cette règle, norme ou pratique. Et puis, il y a également ce qu'on va appeler, nous, la discrimination systémique, alors qui est une forme, on va le dire comme ça, très subtile de discrimination indirecte, c'est-à-dire que c'est un ensemble de règles, de normes, de pratiques qui font que les personnes vont vous dire « Ah ben, on a toujours fait comme ça. Ah, c'est vrai, on ne s'est pas posé de questions. Ah, on n'a pas forcément réfléchi aux conséquences de » et qui finalement finissent par discriminer les personnes. Alors, un exemple, quand vous avez des jeunes qui, à l'issue de leur master, doivent faire un stage en entreprise, et quand on leur répond qu'on ne peut pas les prendre en stage parce que l'entreprise ne prend que les enfants des salariés, oui. Eh bien, ces jeunes vont avoir énormément de difficultés à trouver un stage parce que leur famille, s'ils arrivent d'un milieu modeste où il y a peu de réseau social, où peut-être éventuellement les parents sont au chômage, ce sera très compliqué pour eux de trouver un emploi si à chaque fois on leur répond non. On ne prend que les enfants de l'entreprise.
Donc cette discrimination systémique, c'est peut-être la plus difficile à, non seulement à révéler, mais aussi à lutter, puisqu'elle est induite par les normes qui sont intégrées et reproduites.
Tout à fait, intégrées, reproduites et surtout impensées. C'est pour ça que le projet ça s'appelle Undeterred, c'est que c'est vraiment essayer d'aller révéler tout ce qui est non intentionnel, tout ce qui est impensé. Alors, on a le secret espoir que en débusquant ces pratiques, en les mettant à jour, en les révélant finalement, comme le dit l'acronyme du projet, eh bien, il y a tout un tas de personnes qui vont finalement se dire « Ah oui, effectivement, Vous avez raison. Notre pratique pose problème. Et ce qu'on voudrait, c'est que les institutions, l'université, se posent des questions sur sa pratique, sur la pratique. Alors, je donne souvent un exemple à mes collègues, alors qui plaît ou qui plaît pas. En tant qu'enseignant, dans nos pratiques, on adore avoir nos étudiants en face de nous. Et l'absentéisme dans les amphis nous met hors de nous, naturellement. Oui. Nous met hors de nous, en disant, mais ils ne viennent pas en cours, c'est scandaleux. Sauf que, quand on regarde un petit peu les statistiques de près, vous avez 30% des étudiants, souvent, qui sont salariés. Ce qui veut dire que, de fait, venir en cours et en amphi, ce n'est pas forcément possible pour eux. Si on n'interroge pas notre pratique, on va continuer à penser que le seul lieu pour transmettre la connaissance et surtout pour transmettre de l'information aux étudiants, c'est l'amphithéâtre. Donc on annonce les jours de contrôle continu en amphithéâtre, on donne de l'information sur l'examen en amphithéâtre. Et donc on a tout un tas, dans notre pratique, tout un tas de notre information, de l'information que l'on révèle uniquement en amphithéâtre. Ce qui fait que dans cette pratique-là, on peut exclure une certaine partie des étudiants, et notamment ceux qui travaillent. Et souvent, ceux qui travaillent, ceux qui n'ont pas de moyens, et ceux qui ne sont pas de moyens viennent souvent d'un milieu social moins favorable, et etc., etc., etc. Et on retombe sur une espèce de cercle vicieux. Et donc, l'idée, c'est d'alerter comme ça en disant, mais vous savez, faites attention, les étudiants ne sont pas forcément dans l'amphi, mais parce que des fois, ils ne peuvent pas être dans l'amphi.
Très bien. Alors justement, par rapport à cette thématique qui est encore plus élargie, à l'image donc de cette étude, il va y avoir une diffusion d'un documentaire Premier de Corvée à l'université de Pessac, donc à Montesquieu. Voilà, ce sera le 23 novembre. Qu'est-ce que c'est Premier de Corvée comme documentaire? De quoi ça parle?
Alors, c'est effectivement un documentaire qui sera diffusé le 23 novembre à partir de 18h à l'université. Alors, en présence du protagoniste du documentaire ainsi que des scénaristes, hein, ils seront là. Alors, dans le cadre de cette idée qu'on doit alerter, en fait, sur un ensemble de règles, de normes, de pratiques, et que en alertant, on fait prendre conscience aux personnes qui a des difficultés. Dans cette logique-là, on pense diffuser donc ce film qui s'appelle Premier de Corvée. Alors tout le monde se souvient qu'à un moment donné, on a eu un premier de cordée. Alors c'est juste un clin d'œil à ce premier de cordée qui devient ici un premier de corvée. Alors c'est un documentaire. Alors je ne vais pas, comme disent les plus jeunes, spoiler l'histoire. C'est un documentaire qui raconte le parcours très compliqué d'un jeune qui va venir en France pour travailler et pour nourrir sa famille, hein, tout simplement, et qui a besoin de papier de séjour. Et on va voir toutes les difficultés de ce parcours tout au long, tout au long du documentaire, naturellement, alors qui est vraiment... qui est vraiment filmé au plus près, c'est-à-dire que on suit cette personne en l'observant un petit peu de l'extérieur et on la voit travailler le soir dans un restaurant, travailler dans la journée en étant livreur, donc avoir un double emploi tout en essayant de valider des papiers avec toutes les tracasseries administratives, etc., etc. Et donc c'est la difficulté de ce que je pourrais appeler un parcours migratoire.
Donc, dans ce documentaire, vous l'avez dit, voilà, on suit Macan, donc qui sera là lors de la diffusion, oui, du documentaire. Un jeune malien qui vient travailler en France pour valider des papiers, etc. Il bosse deux jours en tant que livreur, comme de nuit, de soir et de nuit en tant que plongeur. Ça fait beaucoup d'heures de travail, et le travail, visiblement aujourd'hui, c'est bien, c'est la majorité politique qui nous le dit, mais cette majorité aussi, elle entretient le fantasme que les migrants, ils viennent en France pour profiter des aides sociales sans travailler. Et là, il y a comme un paradoxe entre ce qu'on voit dans ce documentaire et le discours qu'on entend à longueur de journée.
Alors c'est justement ce qu'on veut révéler, c'est-à-dire montrer qu'effectivement, c'est pas venir se la couler douce et profiter d'un système. On voit bien, et c'est vraiment filmé au plus près, on voit bien cette personne qui galère dans le métro, à des heures pas possibles, dans des conditions compliquées, qui travaille le jour, travaille de nuit. On se demande même quand c'est qu'elle dort. Donc on voit tous les efforts que fait cette personne en essayant de tout respecter correctement, de respecter la loi. Il est vraiment dans cette idée que lui, son objectif, c'est de nourrir sa famille et rien de plus.
Lors de cette projection, on pourra évidemment échanger avec l'équipe de tournage et Macan, qui sera là. Est-ce que vous pouvez rappeler l'heure et puis peut-être le lieu exact dans l'université, parce que le Montesquieu, c'est grand.
Alors, ça aura lieu donc à 18h30 dans l'amphi Asselin. Alors, pour les plus anciens, c'est ce qu'on appelait Bordeaux 4. Pour les plus jeunes, c'est la faculté de droit, d'économie et de gestion et de sciences politiques. Donc, ce sont les bâtiments qui se trouvent en face de l'amphi Aula Magna, pour ceux qui le connaissent. En descendant du tram, on reconnaît de suite l'amphi Aula Magna. Donc, c'est bien à la faculté d'économie, droit et de gestion, dans l'amphi Asselin, à 18h30. Alors, pour préciser les choses, il y aura la projection du film et ensuite un débat qu'on pourra mener avec le protagoniste du documentaire et les metteurs en scène. Et ensuite, il y aura un petit moment de convivialité, puisque un cocktail sera offert aux participants. Je voudrais juste rajouter une petite chose, c'est que dans le cadre du projet, nous avons mené des enquêtes auprès des jeunes, auprès des étudiants. Et nous sommes allés dans les différents quartiers de Bordeaux pour enquêter également auprès des jeunes, et pour qu'eux aussi nous racontent, dans les domaines cités, quelles sont les pratiques qu'ils auraient éventuellement identifiées comme étant discriminatoires. Beaucoup ont accepté de nous répondre. Plus de 700 répondants sur Bordeaux, jeunes qui ont répondu, et 1400 sur les universités. Et de temps en temps, ils ont accepté qu'on les photographie avec de beaux sourires. Et donc, on exposera également toutes ces photos lors d'une petite exposition à la suite du film.
Donc des jeunes qui ne sont pas forcément étudiants, mais en tout cas des jeunes qui sont...
Qui ne sont pas sentis forcément discriminés, pas du tout, mais qui ont accepté de répondre à l'enquête et qui ont accepté de nous faire un beau sourire devant l'objectif.
Ah, très bien. Donc on le rappelle, ce sera le 23 novembre, amphi Asselin, à anciennement Bordeaux 4, Montesquieu, donc à la Rey Montaigne, Montesquieu du tram B par exemple. Donc ça se passe à l'université, mais qui peut venir?
Tout le
monde, voilà, il faut le préciser parce que
tout le monde.
Les gens s'imaginent que si on ne fait pas partie de l'université ou qu'on n'est pas étudiant, on ne peut pas y venir.
Non, mais tout le monde peut venir. Alors, on a juste une petite contrainte, c'est que l'amphi Asselin fait 200 places. Donc, il y a des personnes qui sont inscrites déjà à l'événement, mais on peut accueillir largement encore toute personne qui aurait envie de voir ce documentaire, qui est déjà passé sur Arte. Certains l'ont peut-être vu. Sur Arte, mais peut-être ont-ils envie de le revoir pour pouvoir discuter avec nous.
Voilà, c'est ça. On peut très simplement le revoir sur Arte TV, le replay d'Arte. Oui. Ça s'appelle Premier de Corvée. C'est un très beau documentaire. Donc, allez le voir avant si vous voulez venir participer. Et si malheureusement, c'est complet, vous pourrez le revoir ensuite. J'avais une petite dernière question à vous poser, Dalila, concernant cette enquête qui a été faite dans plusieurs villes d'Europe sur les discriminations, identifiées ou non, en tout cas. Est-ce que ces discriminations, elles diffèrent d'un pays à un autre?
Alors pour l'instant, on n'a pas décortiqué à fond les enquêtes. Comme hypothèse, oui, on pense qu'il y aura bien sûr des bases communes et que ces bases communes, elles auront trait à la discrimination directe et indirecte. On retrouvera sans doute les mêmes mécanismes, processus. Par contre, on émet l'hypothèse que pour la partie plus systémique, il y aura naturellement des spécificités de terrain et que Bucarest, ce ne sera pas Barcelone. Pour l'instant, on ne peut pas répondre avant. Voilà, c'est en cours d'analyse.
Très bien. Alors la suite pour le projet Undeterred, qu'est-ce que ce sera ?
Alors là, on a interrogé un certain nombre de jeunes. Maintenant, on va aller interroger les institutions. Voilà, donc on va aller aussi regarder, si je prends l'exemple des universités, le regard des scolarités, le regard de la présidence, le regard des responsables de formation. On va aller regarder l'autre regard. Regarder l'autre regard, c'est pas terrible comme phrase, mais on va aller analyser l'autre regard, parce que l'objectif final, c'est finalement de confronter tout ça. Et de mettre en face à face les différentes visions, finalement, du même problème. À un moment donné, on pourra mettre des enseignants en face d'étudiants pour qu'ils confrontent leur regard.
Donc, ce sera une prochaine étape.
Ce sera la troisième.
La troisième. Et justement, ça va s'étaler sur quelle durée, ce projet Undeterred, de cette énorme enquête, finalement ?
4 ans.
D'accord.
Voilà, ça durera 4 années. Donc, si je compte bien, jusqu'en mars 27.
Est-ce qu'on peut suivre de quelque manière ce projet ? Il y a beaucoup de choses à lire pour se documenter.
Alors, on a un site qui fonctionne comme un blog, sur les carnets d'hypothèses. Hein, peut-être que certains connaissent les carnets d'hypothèses. Donc, notre site est rattaché à ces carnets. Et ça s'appelle tout simplement Undeterred, pour le dire en français, hein, Undeterred, point hypothèse.
Très bien, et Undeterred, voilà, c'est un T, deux R, il ne faut pas se tromper.
Sans se décourager,
évidemment. Dalila Chenaf-Nisset, merci beaucoup d'être venue dans les studios de Radio Campus. Est-ce que vous avez un dernier mot adressé à nos auditeurs ?
Non, si ce n'est, venez nombreux.
Merci encore et bonne continuation.
Merci à vous.